Tom a vécu il y a 100 ans, à peu près. Et il était une des personnes plus importantes, à mon avis, du sud de l'Inde, qui a lutté contre le système des castes après Bouddha. Le premier révolte contre le système des castes, c'était le bouddhisme. Et après, c'est le maître Narayana. Entre ces deux maîtres, il y a 2500 ans. Ça veut dire que le bouddhisme a échoué par des raisons, je dirais, historiques, parce que le Bouddha, il était déjà un prince, il était déjà roi, et il ne voulait pas, dans son enseignement, aucune partie politique. Il n'y a pas d'intention politique. Et c'est hors politique, complètement. L'enseignement du Bouddha, c'est complètement hors politique. Bouddha était toujours nomade. Et il ne restait pas dans un endroit, donc il n'y a pas la notion de pays ni roi. Mais au 8e siècle, l'Inde commence à être attaquée par des forces extérieures. Il fallait se défendre. En ce moment-là, l'Inde était complètement bouddhiste. L'hindouisme était zéro, presque zéro. Il y avait quelques ramènes. Et à ce moment-là, un personnage d'histoire très importante de Kerala s'appelle Shankaracharya. Il a re-enseigné le bouddhisme d'une façon radicalement différente. Il a enseigné exactement la même chose avec une toute petite différence. Bouddha, il dit, le moi n'existe pas. Et Shankaracharya, il a dit, le moi, en réalité, c'est le soi, qui est rien d'autre que l'absolu. Vous comprenez la différence? Au lieu de dire que le moi, c'est rien, donc on va effacer le moi. Il a dit, au lieu de le effacer, on va le glorifier à l'absolu. Comprenez, c'est très important dans l'application. Un bouddhiste, si vous frappez, qu'est-ce qu'il peut faire?
Rien.
Il peut partir, ou il peut faire peur, comme en Chine. En Chine, ils ont décidé pour, avec le karaté, c'est pas karaté, kung fu, tout ça, c'est pour faire peur, pour montrer qu'ils sont très forts, mais ils n'attaquent pas. Ils n'ont pas le droit d'attaquer. Si ça ne va pas, la seule chose, c'est de partir. Et dans l'enseignement de Shankaracharya, c'est basé sur un autre principe. Au lieu de dire tout est néant, vide, l'absence, il dit tout est plein. Et chaque individu est, en réalité, c'est l'absolu. Donc si quelqu'un attaque l'absolu, comprenez, c'est légitime de l'aider à sortir de son ignorance. C'est-à-dire, dans l'enseignement de Shankaracharya, il y a une légitime défense possible. Et donc, collectivement, l'Inde tout entier rebascule dans l'hindouisme au 8e siècle. Et c'est pour ça que l'Inde est en ce moment toujours hindou, sinon on aurait devenu musulman, comme Afghanistan. Afghanistan était bouddhiste et maintenant musulman, comprenez? Alors, ces deux maîtres cherchaient à sortir du système des castes. Parce que le système des castes, c'est l'exploitation de l'être humain d'une façon définitive, systématique.
Gandhi n'a pas essayé?
Alors Gandhi, il est venu ici. Gandhi, il est né dans une famille brahmane, haute caste. Je ne rappelle plus le nom des castes, mais de toute façon, haute caste. Donc quand on est né à haut de la société, il n'y a absolument aucune nécessité de remettre les systèmes en question. Donc il n'a jamais mis en question, parce qu'il y a beaucoup de gens encore en Inde qui justifient le système des castes. Le système des castes, c'est une forme de racisme pyramidal. C'est la pureté des sangs. C'est le mot caste, ça vient de portugais. C'est le portugais qui a amené ce nom ici, cette appellation ici. Ça veut dire pur sang. Donc c'est racisme. Pur sang. C'est le racisme pur. Parce que le portugais, le premier, parce que les gamins et tout le reste, quand ils sont venus ici, ils ne connaissaient pas le système de société. Donc ils ont utilisé un terme qu'ils connaissent là-bas. Mais le système ici, c'est basé sur couleur de l'esprit. Donc il y a quatre couleurs. Il y a des gens qui pensent que le savoir, c'est pouvoir. Il y a des gens qui pensent que le pouvoir politique, c'est le vrai pouvoir. Il y a des gens qui pensent que le pouvoir d'achat, c'est le grand pouvoir. Et après, le quatrième, c'est ceux qui pensent que la vraie richesse, c'est le travail. C'est le prolétariat, ceux qui cultivent la terre. En fait, les premiers trois sont des parasites qui vivent sur le dos de celui qui produit vraiment la richesse. Mais la pyramide est faite dans cette façon. Celui qui vit avec la connaissance se trouve à haut, c'est le prêtre. Et les fonctionnaires et les politiciens se trouvent juste en bas. Après, les commerçants, ceux qui gagnent leur vie en tant qu'intermédiaire entre le producteur et le consommateur, ils ne travaillent pas vraiment, ils ne produisent pas vraiment la richesse. Et le reste, c'est celui qui cultive la terre. Mais ce système était bien. Parce que celui qui vit avec la connaissance, il n'a pas le droit de toucher les autres. Ça veut dire ni la politique, ni l'argent, ni la terre. Celui qui est politicien, il ne doit pas intervenir dans des affaires de religion, ni dans le commerce, ni posséder la terre. Et celui qui est dans le commerce, il ne doit pas acheter la terre, ni influencer la politique, ni la religion. Et donc ce système était très bien par rapport à la repartition de la terre. C'est-à-dire, la terre appartenait à celui qui cultive. C'est-à-dire, si cette règle, si on appliquait aujourd'hui, si on distribuait la terre pour celui qui cultive, il y aura en abondance la terre. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est le banquier, il va acheter, il va faire une clôture autour, et donc même pas une vache peut brouter. Donc cette richesse est confisquée, est perdue. Donc la pauvreté est générée. Donc ce système, ça vient de Veda, et ça vient de très très anciens textes, et ça marchait très bien. Mais le moment où le fils de prêtre est devenu prêtre, et le fils de roi est devenu roi, le fils de commerçant ou le banquier est devenu le banquier, et là, il y a eu un souci. Ça veut dire, c'était plus en fonction de désir de chacun, c'était l'héritage. Et ces quatre tiroirs sont devenus des prisons, et on ne pouvait plus sortir. C'est-à-dire, même pas par mariage. Donc, les mariages étaient à l'intérieur des castes. Et après, tous les sous-castes.
Parce qu'au début, c'était pas par filiation.
Non, c'est uniquement la couleur de l'esprit. Parce que c'est un peu par naissance, on est de dominance Vata ou Pitta Kapha. Ça, c'est pas. Le père et la mère peuvent être dominants Pitta. Mais les enfants peuvent être cafards. Donc ça, c'est des psychotypes. Ça ne se décide pas par naissance, ça ne se décide pas par le parent. Et chacun est unique. Donc ça, c'est vraiment le dharma. C'est-à-dire chacun doit trouver ce qu'il est venu faire sur Terre.
Donc les castes, au début, étaient vraiment en accord avec le dharma.
Oui. C'était très bien. Et la société tentait d'organiser en fonction de dharma. C'est-à-dire, tout était, même la cité était planifiée en fonction de l'endroit où les savants habitent, l'endroit où le commerçant habite. C'est-à-dire, tout était, les temples pour les savants, c'était une façon. Le temple pour ceux qui n'ont pas eu beaucoup de culture pour apprécier, leur façon de spiritualité était différente. C'est-à-dire, c'était assez élastique pour que tout le monde puisse accéder à l'éveil, qui est le but suprême. Peu importe où on se retrouve, peut-être je suis chauffeur, ou soudeur, plombier, ou docteur, peu importe la profession qu'on a, et tout le monde peut accéder au bonheur. Mais toutes sortes de bonheur. Toutes sortes de bonheur. C'est pas encore disparu ici. C'est encore vrai. C'est encore vrai, ça veut dire, si quelqu'un, imagine quelqu'un qui vit vraiment avec trois fois rien, même un mendiant, si vous regardez, il a la possibilité d'avoir une spiritualité pour lui, et une façon de rechercher le bonheur pour lui, mais à sa façon. Donc ça veut dire personne n'est jaloux de personne. Mais ça, c'est à la fois, c'est bien, mais à la fois, c'est révoltant, parce que personne fait la révolution contre l'injustice. Si quelqu'un, un milliardaire comme Ambani qui est troisième ou quatrième riche du monde, il vit dans un bidonville, sa maison personnelle à 36 étages, avec des hélicoptères qui atterrissent sur le toit, avec quasiment 4 étages remplis de voitures de luxe. Personne ne râle, personne n'est en colère. C'est parce qu'on dit, ça c'est son karma. Ça c'est la conséquence de son action. Donc quelque part, on peut imaginer une révolution française ou russe ou chinois, mais les Indiens, ils ne vont pas révolter. C'est un peu dommage, à mon avis, parce que la disparité est très très grande. Donc le maître, il a dit, dans cette situation-là, on peut sortir. Il est venu, il avait autour de 40 ans. Il était assis sous cet arbre que je vous montrerai là-bas. C'est un jacquier, à l'époque forêt. Et que les gens qui vivaient, c'est les hors castes, c'est-à-dire il y a les autochtones. Ces 4 castes que je parlais, ça c'est déjà pour la société évoluée. Mais c'est une histoire d'invasion. Ça s'est passé il y a quelques milliers d'années. Et le peuple qui a perdu le territoire, on appelle des autochtones, un peu comme les Amérindiens, ça c'est les gens qui vivaient en dehors de tous les droits. Pour eux, ils ne peuvent même pas posséder la terre, ni aller à l'école, ils ne pouvaient pas aller ni au temple. C'est des gens qui vivaient vraiment considérés comme l'impur, le rat de pâquerette.
On les appelait les autochtones,
c'est ça? Et des gens comme ça qui sont venus voir cette personne qui est assise tout simplement. Et quand même, c'était exceptionnel de trouver quelqu'un qui est assis comme ça, dans les forêts, sans rien faire. Et les gens sentaient quelque chose de particulier dans sa présence. Il commence à attirer des gens, donc les gens sont très curieux. Il se lève et il descend, il y a une rivière en bas, il se purifie et revient. Et sans rien dire. Et que les gens commencent à faire pareil. Avant de venir voir le maître, les gens se purifient, après ils viennent. En ce moment-là, il commençait à parler. Il a parlé 8 choses très simples. Ça, je vais dire maintenant. Après, on ira là-bas. Parce qu'après, il y aura une prière. Mais ça dure longtemps. Peut-être qu'on ne va pas rester longtemps. Il a dit, si vous voulez sortir de votre situation d'esclavage, il parlait aux gens qui étaient entièrement niés depuis des siècles, voire milliers d'années. Il a dit, d'abord, soyez propre. Une fois qu'on est propre, vous êtes capable d'entrer vers une instruction, avoir la connaissance. Une fois que vous avez la connaissance et la propreté, vous pouvez entrer dans une spiritualité sans mur, une spiritualité pure, véritable, une religiosité qui n'est pas la séparation, qui ne dit pas celui-là c'est bon et moi c'est notre religion, c'est la meilleure. C'est pas l'égoïsme religieux le plus compliqué. Une fois qu'on a une spiritualité véritable, il demandait des gens de créer une association, ne restez pas seul. Le cinquième objectif, c'était une fois qu'on a créé une association, travailler pour cultiver la terre, pour avoir l'indépendance alimentaire, autonomie. Une fois qu'on a de quoi manger, quand on cultive, il y a toujours plus. Et entrer dans le commerce, vendre les produits qui sont en surplus. Et là, vous allez recevoir l'argent pour vous former dans des métiers que vous ne pouvez pas accéder. Ça veut dire être manager, être ingénieur, être médecin, tout ça. Et dernièrement, le 8e objectif, c'est être proactif. Agir et l'action, au lieu de nous enfermer dans des autres actions, agir pour que l'action nous conduise à l'éveil. Donc c'est vite objectif, il a enseigné sous ces termes, la propreté, la connaissance, la véritable spiritualité, l'unité et l'indépendance alimentaire et commerce et des métiers, des compétences et puis l'action proactive, ça veut dire agir une façon plus réfléchie, intelligente. C'est-à-dire, il y a 100 ans, le maître, il avait remarqué que quand on a plus de médicaments, on a plus de maladies. On a plus de moyens de locomotion, on s'éloigne de plus de l'essentiel. On a plus de facilité de communication, moins qu'on se comprend. Ça veut dire, il y a un paradoxe dans ce monde, il savait déjà. Donc il a dit, il faut agir d'une façon pour que l'action nous conduise à la délivrance. Donc il a enseigné ça à tout le monde. Et une personne a mis tout ça en application. Il est devenu tellement réussi dans tous les domaines qu'il avait investi. À la fin de... après le samadhi, ça veut dire après le maître quitter son corps, on ne dit pas mort pour un maître, il a construit ce bâtiment, celui-là, ce mausolée. Donc c'est un mausolée. Le corps de maître est enterré ici. Donc c'était un véritable témoignage. Cet homme, il s'appelle Mutodam. Il a, son nom n'est pas écrit nulle part. Il a fait un cadeau pour le maître, comme un souvenir. Cet endroit et des milliers de gens chaque année, c'est voire des millions, parce que quelquefois pendant la fête il y a énormément de monde qui vient. Le message essentiel de maître, c'est transreligiosité. Peu importe la religion, on n'a pas choisi nos religions. Pourtant le but de l'homme, c'est être heureux, c'est pas seulement l'homme, mais toute forme de vie cherche le bonheur. Mais on peut chercher notre bonheur. Mais quand je cherche mon bonheur, il a dit, ça doit conduire au bonheur des autres. C'est ça son enseignement que j'ai trouvé fabuleux. Et si les poursuites de bonheur, il a interdit de ne pas chercher le bonheur, mais votre recherche de bonheur doit produire le bonheur aux autres. C'est possible. C'est un enseignement qui est fabuleux. Or toutes les distinctions du pays, de culture, de religion. Et il a organisé un mariage, pour le premier mariage, entre un Kerali et une Allemande, ici. Et c'était il y a 100 ans. Il a dit, la discrimination entre des castes, ça disparaîtra quand l'homme et la femme se réunissent au-delà de distinctions. Et par amour, et qu'on peut combattre les discriminations basées sur l'apparence physique extérieure, le racisme ou toutes sortes de distinctions religieuses. On peut être juif et musulman, mais on peut s'aimer et même faire des enfants. C'est la meilleure réponse qu'il a donnée. Et moi, cette année, je vais rassembler une centaine de couples mixtes à cette occasion, vers mois de décembre. La date, c'est à peu près vers le 24 décembre. Je voulais coïncider avec Noël. Et je vais honorer ces 100 couples pour un peu rappeler le monde ce qui s'est passé il y a 100 ans. Je vais faire ça en aidant la maman Climandine. Je suis le petit disciple de ce maître. C'est-à-dire mon maître était le disciple des disciples de ce maître. Donc moi j'ai eu l'occasion de venir ici et passer 3 ans. En 1983, j'ai commencé mon cheminement spirituel ici. Et je continuais jusqu'à l'époque où j'allais partir en Occident. Et je continuais jusqu'à être disciple de mon maître, jusqu'à 1998. Et en 99, mon maître a quitté son corps. Et puis, voilà, je me dis, et maintenant, je vais faire mon propre centre. Ça se fait ici, c'est ça. Donc, chaque maître a des disciples qui fait à leur tour d'autres centres. C'est comme ça que j'avais créé Maitri Manda. Maitri Manda, c'est pas un ashram comme ici. Je voulais pas répéter exactement la même chose. À Maitri Manda, toutes les personnes qui viennent, ils gardent leur indépendance, ils ne quittent pas le monde. Vous comprenez? Ici, les gens qui habitent là, tous les swamis, ils ont renoncé leur vie normale, ils vivent ici, et ils n'ont pas de... c'est des sannyasis en fait, donc ils n'ont pas de vie personnelle. Et moi je me dis, c'est l'Occident qui m'a donné le courage de le faire ça. Et c'est quelque part, ça ne correspond pas vraiment. Parce que ceux qui sont renoncés, et seulement le moment quand ils ont renoncé, ils prennent conscience des choses qu'ils avaient. Vous comprenez?
Oui.
Non, c'est le combat ne finit jamais. C'est la raison, c'est parce que la vitesse de prise de conscience de l'être humain est très très long. Si on vit 80 ans, pratiquement 20 ans, c'est parti comme un enfant. Après, un tiers, on a dormi. 40 ans, on a travaillé, on n'a pas eu le temps. Et une fois qu'on a le temps, on est fatigué. Et... Non, 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 c'est surtout pas, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible que je continue à pratiquer le système des castes. Et système des castes, c'est une forme de, d'oppression, discrimination négative. Donc, il y a toutes les origines chez nous, travail, et absolument, on ne demande pas, on ne met pas non plus aucun signe extérieur de leur caste. On va descendre. Je vous donnerai un signe pour descendre. La prière.